Salut, c'est Anaïs.
Salut, c'est Lou.
Deux journalistes de West France, passionnés de séries.
Dans Plateau Séries, on vous partage nos coups de cœur séries et on échange parfois avec leurs créateurs ou leurs acteurs.
Des séries cultes aux dernières sorties, on vous offre les meilleures sur un plateau.
Qu'on les regarde sur notre bonne vieille télé ou sur les plateformes de streaming, on vous parle de tous les écrans, tous les supports.
Retrouvez Plateau Séries sur le mur des podcasts sur le site westfrance.fr. Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Plateau Série. Et comme d'habitude, je suis en compagnie de ma chère amie Anaïs. Comment vas-tu?
Bonjour, écoute, ça va bien toi? Oui, on prend un petit ton solennel aujourd'hui pour la série dont nous allons parler.
Écoute, on pourrait même prendre un peu un accent un petit peu classe, un petit peu chic, puisqu'aujourd'hui nous parlerons de The Crown, une série Netflix qui en est donc à sa cinquième saison, qui va sortir en novembre, alors que la reine Elisabeth II d'Angleterre, comme vous le savez, enfin, reine d'Angleterre, non, mon Dieu, reine du Royaume-Uni, très important, on fait toujours la faute en France, mais non, c'est la reine du Royaume-Uni, est donc décédée la semaine dernière, si je ne me trompe pas, au moment où on enregistre en tout cas, on enregistre effectivement la semaine de son...
Nous venons de vivre son enterrement, avons assisté à son enterrement.
Exactement, nous étions présents sur place à Londres pour vivre ça au plus proche. Donc, The Crown, qui est remonté d'ailleurs dans le top 5 sur Netflix.
Eh ben oui, forcément. Et puis alors, c'est une question de timing, mais comme tu le disais, la nouvelle saison va sortir dans un mois. Donc, ça tombe un petit peu bien. Ça va faire de la pub pour la série, malgré elle, j'ai envie de dire. Mais c'est une bonne occasion de découvrir la série pour ceux qui ne connaissent pas et de la continuer pour ceux qui la connaissent déjà comme moi et qui l'adorent.
Il y a des petits traits d'humour, évidemment, sur Twitter, comme d'habitude, en disant « Ah, ça y est, il nous spoil la fin, c'est malin. » Ah là là. Bon, alors, pour préciser, petit contexte, il faut savoir qu'Anaïs a vu l'entièreté des 4 saisons.
Tout à fait.
Alors que moi, je suis seulement en train de commencer. C'est ma deuxième tentative. J'avais essayé une fois. Je l'avais mis un petit peu en fond pour travailler en même temps et j'avais pas du tout accroché. Très mauvaise idée en même temps de mettre ce genre de série en fond, tu vois.
Oui, non,
autant je l'ai fait avec Plus belle la vie, dont on a parlé la fois dernière, tu vois. Premier confinement, je bossais avec Plus belle la vie en fond. Ça me permet de récupérer les 400 premiers épisodes. Là, sur The Crown, t'as quand même besoin un petit peu d'être à fond dedans, quoi.
Ah bah oui, il faut suivre et puis faire autre chose à côté, c'est quand même se couper de tout ce qui fait la virtuosité de la série, quoi. La mise en scène.
Ah,
Le jeu d'acteur, les histoires, enfin il y a tellement, tellement de choses, on va revenir là-dessus, mais c'est dommage de faire autre chose à côté.
Ah, je suis bien d'accord. Là, sur ma deuxième tentative, je me suis vraiment isolé, mis bien devant ma petite télévision avec mon pop-corn, et je dois dire que je suis complètement devenu fanat de cette série.
Tu es devenu anglais, as décidé de prendre la nationalité.
Alors, blague à part, c'était mon rêve quand j'étais petit, je voulais être anglais, je ne sais pas pourquoi, écoute, peut-être que je voulais avoir les oreilles décollées, je ne sais pas. Le pitch, du coup, on va parler un petit peu du pitch, c'est très très simple, c'est la biographie d'Elisabeth II, on peut dire.
C'est alors évidemment la famille royale se défend en disant oui c'est une fiction, attention, n'écoutez pas ce qui est dit dans la série parce que bah forcément ça les dérange un petit peu sur certains sujets, mais c'est quand même une série qui est très 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 proche de la réalité, qui a été confirmée par beaucoup de proches aussi de la famille royale sur certains points, donc on peut dire que c'est presque une biographie de la famille royale. Évidemment ça reste une fiction, on le redit, donc ne pas prendre absolument tout pour argent comptant, mais c'est bien, ça permet d'aller se renseigner sur l'histoire anglaise aussi, et puis ça donne envie à chaque fin d'épisode de se dire « Ah bah tiens, mais ça c'était vrai ou c'était pas vrai ?» Et du coup, finalement, on va faire des petites recherches, et moi, je trouve qu'on apprend beaucoup là-dessus. Mais oui, en gros, c'est l'histoire de la reine Elisabeth, de son couronnement, à peut-être jusqu'à sa mort, on ne sait pas.
Donc de 1947, ça commence en 1947, donc c'est avant son couronnement finalement. Au tout début de la série, en fait, on apprend que son père, le roi George VI, est malade. On découvre vraiment le début de sa maladie. Et évidemment, comme souvent les responsables politiques, même si le rôle est un petit peu différent dans le cadre du roi du Royaume-Uni, on cache souvent les maladies. On le sait bien en France aussi, on est un peu spécialiste de la question. Et donc là, voilà, son cancer des poumons est secret, il y a des opérations, etc. D'ailleurs, sur le côté romancé, comme on le disait, je me suis posé des questions sur la réalité de certaines scènes, à savoir, tu vois, au début de la série, le prince, il n'est pas encore prince Philippe, du coup, mais Philippe qui va, du coup, dans la salle d'opération du roi George VI, alors que c'est pas son père, c'est son beau-père, futur beau-père. Et tu te dis, mais est-ce qu'on aurait laissé entrer quelqu'un comme ça dans la salle d'opération du roi et tout? Ouais, tu vois, c'est un petit peu étrange. Donc il y a peut-être des petits détails aussi qui sont plus là pour créer une sorte de tension dramatique, pour créer vraiment un côté romancé, que pour la vérité. Donc il y a peut-être pas non plus une envie de la part des créateurs de faire quelque chose d'hyper réaliste, en fait, au final.
Non, après, leur envie reste quand même de rester fidèles à l'histoire. Ils n'ont pas pris trop de liberté historique non plus là-dessus. Et puis, c'est aussi une façon de montrer le protocole, en fait, qui entoure la famille royale, justement. Effectivement, tu vois, on se pose la question, on se dit, bah non, je pense que Prince Philippe, qui n'était pas même prince à cette époque-là, n'aurait pas eu le droit de rentrer réellement dans la pièce où un roi est en train de se faire opérer. Mais justement, ça pose des questions sur ce protocole et qui est le fil rouge de tous ces épisodes, parce que évidemment Elisabeth, c'est le personnage central, mais c'est plutôt tout ce qu'il y a autour de... D'ailleurs, la série s'appelle The Crown, elle s'appelle pas Elisabeth. Mmh. On est autour de la couronne royale, quoi, c'est-à-dire de ce rôle de souverain et de tout le protocole que ça entraîne derrière. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment incroyable dans cette série.
En fait, ce qu'on voit surtout dès le début, c'est la construction du personnage de la reine, ouais, et pas d'Elisabeth II. En fait, on voit aussi cette difficulté qu'il y a pour elle d'entrer. Enfin, il y a l'elle intime, l'elle personnelle, et puis le côté, le rôle, tout le poids de la couronne, en fait, finalement.
Le fardeau, parce que là, tu parles de la première saison, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que le temps passe dans les saisons, elle vit quand même... La reine a vu passer un certain nombre d'événements marquants dans sa vie et dans la vie du monde entier. Et forcément, elle a des décisions difficiles, plus ou moins difficiles à prendre. Et puis même, comme tu dis, la scission entre la vie personnelle, la vie privée et la vie qu'on expose, qu'on doit exposer à son peuple pour rester et garder une image forte, puisque c'est ça que fait la famille royale, c'est extrêmement difficile. Notamment, ça peut causer des relations conflictuelles avec sa sœur, la princesse Margaret, puisque est-ce qu'elle prend, elle endosse le rôle de reine Elisabeth en refusant le mariage de sa sœur, ou est-ce qu'elle endosse son rôle de sœur et qu'elle se dit, bah oui, si tu as envie de te marier avec telle personne, vas-y, marie-toi. Donc c'est toujours ce conflit-là et ce fardeau. Et ce que j'aime dans The Crown, c'est que c'est pas... on n'est pas là pour romantiser un petit peu la famille royale. C'est-à-dire que, évidemment, on est à fond dedans, mais moi, je ne suis pas une fan de la royauté. Je ne défends pas spécialement ça. Et je trouve que cette série, elle est justement très juste là-dessus, sur comment dépeindre le fardeau du protocole et le fardeau de cette famille, en fait. Enfin, moi, à aucun moment, ça me donne envie d'être à la place d'aucun des personnages.
Ah, tu ne veux pas épouser le prince Harry?
Ah non, mais l'horreur, mais aucun. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont tous, à un moment donné, détestables dans cette saison, et en même temps, pardonnables. Parce que tu les détestes, mais en même temps, tu te dis, mais en fait, ils sont tous malheureux.
Ouais,
ils sont tous malheureux là-dedans, ils n'ont pas le choix, c'est le protocole, ils sont obligés de faire ça, mais quelle vie de merde, on peut le dire. Non, mais c'est horrible.
Pauvre millionnaire.
Ouais.
Comment tu ressens justement ce conflit, cet équilibre aussi entre les intrigues personnelles et les intrigues politiques, finalement, quelque part? Est-ce que c'est bien équilibré dans la série?
Ouais.
Est-ce que c'est suffisamment développé?
C'est hyper bien équilibré, je trouve, et justement, c'est là où c'est très intelligent dans l'écriture et aussi dans la mise en scène, c'est que des événements privés ont un impact sur des événements professionnels ou des décisions qui sont prises. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux pas avoir l'un sans l'autre. C'est-à-dire que expliquer certaines décisions d'Elisabeth sans voir ce qui s'est passé dans sa vie privée, ben ça aurait pas fonctionné. C'est-à-dire que ce serait resté très factuel, mais ça on le voit déjà, c'est dans les livres d'histoire. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ça l'a mené à cette décision, ou pourquoi la famille royale a fait telle ou telle chose. Et ça, il y a qu'en pénétrant dans le privé que tu peux le savoir. Mais c'est bien évidemment sur le privé qu'il y a le plus de choses qui sont de l'ordre de la fiction, puisque on n'est pas dans la chambre avec eux non plus, hein. Évidemment, on ne sait pas ce qui s'est passé à 100%. Mais je pense que c'est quand même assez proche de la réalité.
Et puis, comme tu le disais aussi, on est témoin aussi de grands moments historiques, ouais, qui ont fait l'histoire du Royaume-Uni. On l'a dit, ça couvre du coup donc de 1947 à nos jours. Donc, on voit vraiment plein d'événements, la crise du canal de Suez, les mandats d'Harold Wilson, puis surtout les mangas de Margaret Thatcher,
ouais,
qui ont été extrêmement pivots du coup au Royaume-Uni. Ça, on y reviendra.
La Seconde Guerre mondiale, les grèves, les différents moments importants aussi au Royaume-Uni et puis dans le monde entier, parce que c'est aussi la reine du Commonwealth.
C'est
donc
ça.
Donc, il y a aussi toute l'histoire des colonies et à l'étranger aussi.
Et son premier travail de reine avant de devenir reine passe d'ailleurs par cette représentation du roi George VI au sein du, ouais, Commonwealth. Donc, toute cette importance aussi de cette famille, cette petite famille finalement de, d'Angleterre, du Royaume-Uni, cette importance internationale en fait de ces gens-là. On va d'abord revenir sur les personnages et c'est assez intéressant d'ailleurs à ce niveau-là la série. Comme vous le savez, donc il y a 6 saisons pour l'instant qui sont prévues. Les 4 premières sont sorties. La 5 va arriver donc en novembre. Et là, en fait, les personnages, toutes les 2 saisons, il y a un renouvellement total du casting pour pouvoir suivre évidemment le vieillissement des personnages en même temps, puisque chaque saison, c'est à peu près une décennie en fait. C'est entre 9 et 13 ans. J'ai regardé un petit peu sur le temps couvert par chaque saison, donc quasiment une décennie à chaque fois. Et on peut voir les personnages vieillir finalement.
Ouais, et ça c'est aussi très fort parce que toi tu le découvres maintenant, mais moi j'ai regardé dès le premier épisode et je me souviens d'avoir eu une très très forte appréhension à l'idée de dire au revoir à Claire Foy. Matt Smith qui jouait aussi Prince Philippe, parce que je l'ai trouvé exceptionnel dans ces rôles-là et je me disais que ça allait faire bizarre de voir quelqu'un d'autre. Et en même temps, tu vas pas mettre un espèce de faux maquillage pourri pour vieillir la reine ou le prince Philippe, ça aurait été vraiment dommage. Donc c'est là où tu vois que les acteurs sont très très bons, c'est-à-dire que quand Olivia Colman finalement est arrivée, c'est différent, c'est pas moins bien, c'est tout aussi bien, voire parfois mieux, mais parce que la reine, elle était aussi dans une disposition différente à ce moment-là. Donc c'est normal d'avoir eu cette évolution de personnage, mais en tout cas, tout le monde, tu vois bien, a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur les manières, sur le phrasé, sur là aussi le protocole. Encore une fois, je pense qu'ils se sont beaucoup entraînés sur pas mal de sujets. Enfin, on prend Gillian Anderson qui était dans la dernière saison, la 4e, qui joue Margaret Thatcher.
Elle est incroyable. Enfin, j'ai vu que des photos, mais rien que sur les photos. Et d'ailleurs, j'ai aussi Emma Corrin qui joue Lady Di sur certaines photos qui sont censées recréer des photos existantes prises par les paparazzi.
Tu sais pas si c'est Lady Di ou si c'est Emma Corrin. Ouais.
C'est parce que déjà, de base, on se dit pas, lui ressemble quoi. C'est pas quelqu'un qui lui ressemble, mais le travail qu'il y a pour se mettre dans la peau des personnages à chaque fois est assez dingue. Néanmoins, j'ai un petit bémol. Alors, pas pour ma part, mais j'ai entendu plusieurs personnes me dire qu'effectivement, la transition entre la saison 2 et la saison 3, donc avec le renouvellement du casting, ça les a un petit peu sortis malheureusement.
Oui, ça chamboule, mais aussi parce que c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans les séries. Ce sont des séries qui sont un peu... c'est très rare d'avoir ça. Et là, ce qui est marrant, c'est que la série House of the Dragon, donc en ce moment, qui est le spin-off, le préquel de Game of Thrones, il va se passer exactement la même chose. Sauf qu'eux, ils vont le faire au milieu d'une saison. Ils vont changer le casting au milieu d'une saison. C'est-à-dire qu'il va y avoir un gap temporel de 10 ans ou plus. Et on s'est habitué pendant les 5 premiers épisodes à avoir un casting. Et puis, ce sera un autre dans les épisodes qui viennent. Et moi, j'ai aussi vu beaucoup ça passer sur les réseaux, qui est, s'il n'y avait pas eu des séries comme The Crown avant, qui nous ont habitués à du changement de casting, je ne sais pas si on aurait été prêt à accepter un changement comme ça dans une série en milieu de saison. Il faut être habitué.
Une petite pensée pour Dynasty et Crystal qui n'a pas arrêté de changer dans cette série. Tu parlais de House of the Dragon, d'ailleurs Matt Smith qui joue le rôle du prince Philippe dans les 2 premières saisons. Il joue dedans, mais c'est le principe aussi des acteurs britanniques. Vous les avez forcément vus ailleurs.
Dans plein de séries.
Ils sont toujours recyclés. Matt Smith était aussi le Docteur Who, évidemment. Et puis il y avait Imelda Staunton, qui va arriver pour la saison 5-6 dans le rôle
d'Elisabeth,
qui est juste incroyable sur les photos là aussi.
Imelda Staunton, c'est Dolores Umbridge dans Harry Potter.
Exactement. Donc ça va être bizarre aussi de la voir.
De la prendre au sérieux, parce que moi je vais l'imaginer avec des chats derrière,
en rose,
tout en rose.
Il y avait un petit côté reine d'Angleterre.
Mais avec son tailleur de couleur, elle sera raccord.
Exactement. Mais c'est vrai qu'on voit souvent des personnages comme ça dans d'autres série, c'est assez amusant. Il y a Helena Bonham Carter aussi qui joue le rôle de Margaret dans les saisons 3 et 4.
Alors moi j'aimais beaucoup Margaret dans les 2 premières saisons. Je pense au-delà de Claire Foy, parce que j'adore Olivia Colman, donc ça m'a pas spécialement choquée au niveau de la reine, mais même si j'adorais le phrasé de Claire Foy, je trouvais qu'elle avait une élégance dans ces années-là qui était dingue. Mais Margaret, elle était géniale dans les 2 premières
saisons. Vanessa
Kirby,
du coup.
Oui. Et surtout parce que dans les premières saisons, on s'intéresse beaucoup à Margaret. Et après, il y a des moments où on s'intéresse un peu moins à certains personnages. Et donc, le changement à partir de la 3e saison m'a un petit peu plus perturbé pour elle. Pour d'autres.
En plus, je sais pas, chers auditeurs ou chères auditrices, si vous connaissez Olivia Colman en tant qu'individu, en dehors des rôles qu'elle incarne, c'est qu'elle est juste à milieu de ce que représente la reine d'Angleterre. C'est quelqu'un d'assez
drôle.
pétulant et en même temps un petit peu, enfin pas timide, mais qui a une espèce de façon de s'excuser un petit peu toujours et un petit peu très naturel en même temps.
Oui, c'est très spontané.
Voilà, ça, spontané, c'est le mot que je cherchais. Extrêmement drôle dans les remises de prix à chaque fois. Enfin, c'est quelqu'un de très très comique. Il paraît, cela dit, que la reine Elisabeth II était un personnage assez assez drôle aussi, mais plus piquant, plus dans voilà dans l'esprit, on va dire, c'est comme on peut le voir d'ailleurs un petit peu dans The Crown. Mais du coup, Olivia Colman, tu te dis le travail qu'il a fallu faire, enfin c'est vraiment là pour le coup, c'est endosser un rôle complet, quoi.
Mais ils en ont beaucoup parlé, les acteurs, dans les nombreuses interviews qu'ils ont données, mais pour eux aussi c'était un fardeau, c'est-à-dire que ils ont dû porter le même fardeau que la reine elle-même, parce que tu dois te mettre dans ce personnage et tu dois en plus assumer le fait que au moment où ils ont tourné, elle était encore vivante, et en plus tu sais que la famille royale elle regarde, regarde chaque épisode, et que derrière c'est quand même une pression assez particulière, quoi. Donc oui le travail a été hyper important sur la création des personnages, sur le respect de beaucoup de choses. Je pense qu'ils n'ont pas pu beaucoup dériver et avoir énormément de liberté. Ça devait demander une grande, grande préparation.
En dehors de Margaret, dans les premières saisons que tu aimes beaucoup, c'est quoi tes personnages préférés du coup dans cette série ? C'est drôle de se dire des personnages préférés alors que ce sont des personnes réelles, mais bon.
Justement, moi ça m'a fait apprécier la reine. Je le disais tout à l'heure, je ne suis pas une fan de la famille royale. Attention, comme tout le monde, moi j'étais fan de Lady Di. Nous avons connu cette époque-là.
Team Lady Di, on a grandi, c'était notre jeunesse, on peut le dire.
Non mais tu vois, c'est là où c'est intéressant, c'est que moi j'étais le Team Lady Di. Je me souviens d'avoir beaucoup pleuré au moment où elle est décédée. Et évidemment, comme tout le monde, je détestais le prince Charles. Et il y avait, je me posais même pas les questions de savoir si lui aussi était malheureux de quoi que ce soit. Et en fait, une série comme The Crown m'a fait avoir, pour la première fois, de la compassion pour le prince Charles, ce qui est quand même assez difficile.
Pas pour le roi Camilla. Charles maintenant.
Ah oui, pardon.
Charles
III. Pour le roi Charles. Pas pour Camilla, toujours pas. Mais mais en tout cas pour Charles, oui. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ils sont tous malheureux là-dedans. Et en fait, ils me font tous de la peine à un moment donné, donc ça les rend humains. Et ce que j'ai adoré dans cette série, c'est ça, c'est que quand tu les vois et quand tu vois ce système de royauté, c'est quand même très lointain, très loin du peuple, très loin de tout le monde. Et tu te dis, c'est des gens qui vivent dans une prison dorée. C'est pas mon problème, ça va pas m'affecter s'il leur arrive quoi que ce soit. Et en fait, cette série, elle te les rend vraiment fondamentalement comme toi et moi, quoi. Ils ont les mêmes soucis, hein. Ils ont envie de s'aimer. Il y a des tromperies, il y a des décès, il y a des secrets de famille, il y a un petit peu de tout qui se mélange, comme absolument tout le monde, sauf qu'eux, ils ont en plus le devoir d'assumer, de garder toujours la face devant tout en n'importe quelle circonstance. Et ça me fait, je crois, le plus de peine, quoi. Et donc, j'ai bien aimé découvrir le personnage d'Elisabeth au travers de ça, parce que en plus, surtout sur ses jeunes années, parce que c'est vrai que nous on l'a vu, elle était déjà vieille.
C'était déjà la mamie, quoi, ouais, bien sûr.
Déjà la vieille Elisabeth. Mais je me dis, le début, j'ai lu dans des livres d'histoire, mais quelle personnalité elle avait, ça, c'était quand même quelque chose qu'on ne connaissait pas spécialement. Et ça, j'ai bien aimé qu'on dévoile ça dans la série, quoi.
J'aime beaucoup l'idée que tu dises que c'est un peu comme nous, comme toi et moi. Nous aussi, on a envie de s'aimer. La seule différence, c'est que eux, au moins, ils ont plein de pognon.
Ah, ça, c'est sûr.
Et aussi une tripotée de majordomes pour pouvoir les aider à faire le moindre truc. Ça, c'est quand même bien pratique. Parmi tous les événements scénaristiques, mais qui sont là encore réels, est-ce qu'il y a des passages, toi, ou des moments d'histoire, ou même des moments intimes qui t'ont particulièrement plu dans ces quatre premières saisons?
Oui, il y a toute la... Il y a le passage avec Churchill, qui je ne vais pas trop en dévoiler non plus, mais tout ce qui est lié à l'histoire qui est connue du monde entier, tu vois, une histoire commune avec les différents pays, quoi. Donc évidemment, autour de la Seconde Guerre mondiale aussi, j'ai trouvé que c'était bien de rentrer dans ces espèces de coulisses, qui sont des faux coulisses, certes, mais c'est des moments qui sont importants, c'est des décisions qui ont un impact mondial, et je trouvais ça hyper fort de voir ça. Mais en fait, c'est plus ce que j'aime bien dans The Crown, c'est que c'est un petit peu comme une autre série britannique que j'adore, qui est Downton Abbey.
Ah là là, mais oui.
Qui est aussi très classe. Et en fait, ce que j'aime bien dans ces deux séries-là, c'est que ça te parle des événements du monde sans t'en parler totalement. C'est-à-dire qu'à travers cette saga familiale, le temps passe, les années passent, tu vois des trucs tout bêtes arriver, genre l'électricité que tu vois pas dans les premiers épisodes dans Downton Abbey par exemple, et qui arrive après. Et c'est pareil dans The Crown, tu vois l'évolution historique du monde au travers de petits détails un petit peu partout et au travers de personnages qui ont évolué. Et même s'ils restent quand même très figés dans le temps de par leur mentalité, et c'est ça qui est vachement fort dans The Crown, c'est que tu vois à quel point, je trouve qu'il y a une, il y a une bascule au fil des saisons. C'est-à-dire qu'autant au départ, c'était à peu près raccord avec leur temps. Et puis tu sens bien qu'au fur et à mesure des années, entre voilà l'empêchement du mariage de Margaret et des secrets de famille qui explosent, comme par exemple le fait qu'ils aient caché les personnes handicapées dans leur famille parce qu'il faut pas montrer la famille royale faible auprès du peuple. Enfin voilà, ce genre de choses, tu te dis ah ouais, mais là ça y est, ils sont déconnectés. Ça y est, la bascule, elle s'est faite, elle s'est opérée. Le monde de dehors, il a évolué. Les ouvriers font la grève. Enfin, il se passe un milliard de choses à l'extérieur. Et eux, tu sens qu'ils restent bloqués dans ce protocole, ils restent bloqués dans cette histoire, ils restent bloqués dans leur carcan de famille royale, quoi. Et je trouve que ça monte en pression au fur et à mesure des saisons. Et donc, c'est pas un moment spécifique, mais je trouve que c'est l'ensemble, c'est l'entièreté de la série, en fait, qui fait que ça tient la route et que, surtout, ce que j'adore dans The Crown, c'est que ça prend son temps. Même si c'est quand même une décennie par saison, donc c'est beaucoup, c'est le temps passe relativement vite, mais dans chaque épisode, ça prend son temps. Quand ça doit te raconter un événement, ça te met 50 minutes à y arriver, et avec une musique incroyable, une mise en scène posée. On n'est pas dans un truc là pour binge-watcher, quoi. On n'est pas là pour ça. Même si c'est un peu dur de ne pas enfiler tous les épisodes. Mais clairement, on est sur quelque chose qui s'apprécie. Sur de la finesse, je trouve. Du raffinement, en tout cas.
Et c'est donc la petite histoire qui raconte la grande histoire, ouais. En fait. On va peut-être dire deux mots, justement, puisque tu en parlais de la réalisation, qui est vraiment incroyable. On peut dire que c'est une série cinématographique, complètement.
Oh bah complètement. C'est un mini-film par épisode.
Il suffit de regarder, par exemple, la fin du tout premier épisode. Moi, j'étais scotché par la virtuosité de la musique, des scènes, et du poids, parce que nous, avec notre regard, pour situer un petit peu, donc comme je le disais, c'est le début où on apprend vraiment que le roi George VI, du coup, est mourant, en fait, finalement, suite à une opération d'un cancer. Mais on sait que le cancer, c'est propagé, tout simplement. On comprend, lui-même, on ne sait pas trop si dans une sorte de déni où on sent qu'il est quand même à double voix, puis on voit qu'il essaie quand même de passer les rênes à Elisabeth, qui, elle, ne sent pas non plus qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Peut-être que c'est d'ailleurs Philippe qui comprend davantage au début qu'Elisabeth, qui a l'histoire est en train de s'écrire devant eux. Et donc, on voit tout ça, on voit tout ce poids de l'histoire en fait qui est en train de s'écrire et qui va se dérouler sur un fond de scène de chasse d'ailleurs entre le roi et Philippe où ils essaient de se rapprocher et c'est magistral quoi. Les images sont incroyables, c'est vraiment on en sent plein dans une peinture historique en fait.
T'as les paysages, t'as les décors, t'as
les costumes bien sûr,
c'est tellement de travail et tellement de là aussi de finesse quoi, tout est dans le détail en fait. Ils ont travaillé ça je pense comme les domestiques travailleraient autour de la reine, de la vraie quoi. C'est il y a vraiment rien qui est laissé au hasard et c'est hyper important. Et pour revenir à ta question d'avant, comme tu me demandais s'il y avait un moment que j'avais aimé particulièrement, c'est vrai qu'il y a plusieurs fois des scènes de chasse qui viennent au fil des saisons qui sont très importantes, notamment dans la quatrième avec quand Diana est là et qu'elle est pas bien, enfin elle est très angoissante la quatrième saison je trouve, parce que tout le monde est au bord de la dépression et de la tentative de suicide, donc c'est quand même c'est très lourd, c'est très pesant.
Quand tu revois, juste pour faire une petite parenthèse, quand tu revois a posteriori toutes les interviews de Diana où elle passait son temps à dire qu'elle allait pas bien, et je me dis mais c'est fou parce qu'à l'époque c'est pas du tout l'image qu'on en avait en fait.
Et moi j'ai refait, c'est ça, c'est que cette série en général me donne envie après de replonger un petit peu dans l'histoire, et notamment à partir du moment où Diana arrive, où tu te dis ah ouais, c'est pas l'image que j'en avais moi. Quand je la regardais à la télé quand j'étais gamine, c'était la princesse trop sympa.
Là nous avons une histoire glamour
puis elle était souriante, elle était hyper avenante, etc. Et alors qu'en fait c'était là, c'est-à-dire qu'elle a balancé dans les interviews qu'elle était boulimique, qu'elle était pas bien, que Charles l'aimait pas,
qu'elle s'est mutilée, elle a essayé
de mourir plusieurs fois, mais elle le balance avec un sourire en plus, et je pense qu'on est totalement passer à côté. Et c'était.
C'est encore plus tragique, quoi.
C'est encore plus tragique, et je trouve que c'est un traitement qui aurait pu être un peu morbide ou au contraire un peu racoleur dans une série. Et là encore, je trouve que The Crown, elle le fait avec tellement de raffinement que c'est jamais tape à l'œil, c'est jamais dans la vulgarité. On n'est pas là en se disant oh là là, gros gossip.
Mais on n'est pas dans la pitoiement.
Non, c'est vraiment assez puissant, et en même temps, ce qui nous tient, c'est quand même de se dire là, tu vois, je me dis pour les prochaines saisons, j'ai trop hâte de voir. Comment ils vont traiter la mort de Lady Di, qu'est-ce qui va arriver, comment ils vont le faire. Enfin, on a hâte de savoir, puisque comme on connaît l'histoire, on a hâte de savoir ce qui va arriver, même si on sait ce qui va arriver, mais parce qu'on a hâte de voir comment ils vont le traiter, et qu'on sait que ça va être bien traité.
C'est d'autant plus important que la mort de Lady Di, ça a signé, c'était le premier divorce réel entre la reine et le peuple.
Ouais.
C'était vraiment là où il y a eu... où elle a été vraiment vivement critiquée pour la première fois par le peuple britannique pour sa supposée indifférence vis-à-vis de la mort de celle qui était la princesse, mais qui n'était plus du coup la princesse de Galles.
Et parmi tous les scandales de la famille royale, je pense que c'est le scandale parmi les scandales. Quoi.
Ouais.
Il y a de la théorie du complot, et d'ailleurs qui survit et qui va survivre à la reine Elisabeth, parce que là, je le voyais même pour son enterrement, il y avait encore la team Lady Di et la team reine, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui disaient bah non, moi je regarderai pas son enterrement à elle, pas celle qui a fait tuer ou à cause de qui Lady Di est morte. Et puis il y avait même une bataille sur les chiffres, c'est-à-dire ah oui, bah Lady Di, il y a plus de personnes qui ont regardé l'enterrement de Lady Di en 97 que l'enterrement de la reine, alors qu'il y a plus de streams et il y a plus de moyens de le voir.
Mais en même temps, le décès de la reine Elisabeth II n'était pas une surprise en soi.
Non.
Elle avait 96 ans.
Voilà, c'est ça. C'est pas le même contexte.
Voilà. Lady Di est morte à 36 ans, je crois.
Ouais, quelque chose comme ça.
C'est-à-dire que plus jeune que moi, c'est douloureux à dire. Mais, tu te rends compte à quel point, quand je l'ai appris, du coup, j'étais tout petit, donc ça me paraissait pas vieille, mais en tout cas grande.
Oui, adulte, quoi.
Et aujourd'hui, tu te dis, mais elle avait à peine commencé, peut-être pas à peine commencé sa vie, mais en tout cas, c'est jeune, quoi, quand même. Pour, et je vois Maëlys qui enregistre, qui a moins de 30 ans, je pense, et qui se marre. Merci, merci Maëlys. On peut la remercier, qu'elle s'occupe de l'enregistrement, de toute la gestion, du montage, etc. Donc merci beaucoup, essuie-toi les yeux. Je vois que tu pleures de rire pour te moquer. Ah là là, bon, on va continuer. Est-ce qu'il y aura une saison 7, à ton avis? Parce que là, il s'arrête à la saison 6, mais saison 7...
Alors, dans la saison 6, au départ, elle était annoncée comme la dernière. Donc, alors déjà, la saison 5, au tout départ, était annoncée comme la dernière. Après, ils ont dit, OK, on va aller jusqu'à la saison 6, puisque visiblement, la mort de Lady Di, notamment, va se jouer entre la saison 5 et la saison 6. Et finalement, la saison 6 devrait couvrir le début des années 2000, c'est-à-dire... William et Kate Middleton. Ça, c'est déjà intéressant. Et ça devait s'arrêter là. Mais il se passe tellement de choses depuis. Enfin, entre
Meghan Markle,
Meghan et Harry. Et puis maintenant, la mort d'Elisabeth, que je me dis, ce serait trop bête de pas faire la petite septième saison pour les années d'après, quoi. Donc moi, j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie d'en voir toujours plus, mais je ne sais pas s'ils iront jusqu'à la mort d'Elisabeth.
Est-ce qu'ils iront aussi jusqu'au roi Charles III et conflit avec le stylo? On ne sait pas. C'est important d'avoir un stylo qui fonctionne. ça pourrait être intéressant en même temps, parce que c'est vrai qu'il y a encore des choses à dire.
Plein de choses à raconter.
On en saura peut-être aussi davantage quand le livre du coup d'Harry sortira.
C'est ça, c'est que c'est peut-être un peu trop récent entre guillemets, parce que là il y a eu un travail de recherche sur les années précédentes qui n'aurait pas pu exister et qui n'aurait pas pu être aussi puissant si on n'avait pas eu plein de récits autour de Lady Di, autour de tout ce qui s'est passé avec la reine Elisabeth et de la famille royale. Donc il faut laisser le temps d'avoir tout ça. Donc, je ne suis pas certaine qu'ils le fassent tout de suite. Après, est-ce qu'ils vont s'arrêter à la saison 6 officiellement et puis peut-être, dans quelques années, dire « Ah bah finalement, on continue ». Ça, c'est aussi une possibilité. Ils vont peut-être se laisser ça en suspens.
Alors, The Crown sur Netflix, est-ce qu'on conseille?
Évidemment qu'on conseille. Mais encore une fois, même si vous n'aimez pas la famille royale, si vous en avez rien à faire, de la royauté, des trucs comme ça, c'est juste, faut regarder, quoi. C'est tellement beau, ne serait-ce qu'en termes d'écriture, de réalisation, de jeu d'acteur. Il y a un milliard de raisons de regarder The Crown.
Et si vous avez aimé Downton Abbey, foncez dessus aussi, parce que c'est un peu la même trempe. Moi, je suis un amoureux de Downton Abbey. Je défendrai cette série
moi aussi
jusqu'à ma mort. Et j'espère que j'aurai aussi une retransmission sur toutes les télés à ce moment-là. Merci beaucoup, Anaïs.
Merci à toi.
Merci beaucoup, Maëlys, également.
Merci, Maëlys.
On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Plateau Série. D'ici là, retrouvez-nous sur le mur des podcasts et sur le site westfrance.fr. Salut.
Salut.
Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.